Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Elle a écrit sa vie comme d'autres la rêvent, sans jamais renoncer à rien. Même l'Élysée ne l'a pas écartée de sa passion pour la chanson. Les chansons qu'on fredonne comme des prières qui parlent d'amour, de désir et d'incandescence. Comme dans son nouvel album, au titre éponyme.
Europe 1.
Bonjour Carla Bruni.
Bonjour Isabelle.
Ah, que j'aime cette voix de miel. Alors chère Carla, j'ai 1000 questions à vous poser. Carla Bruni, vous avouez, il existe des gens secrets, d'autres non. Moi, je peux bavarder toute la journée, on n'entre pas dans mon secret. Alors on ne va pas bavarder, on va se parler. Et d'abord, c'est l'album qu'on va évoquer. 18 ans déjà se sont écoulés depuis le premier album. Certains ont des carrières qui ne durent même pas 10 ans. Ce cinquième album marque donc vos 18 ans de carrière à vous, Carla. Vous avez le sentiment d'être toujours une artiste neuve au sens de l'enchantement et de la découverte, ou bien vous avez passé ce stade en vous sentant dans la maîtrise de votre art qui vous fait construire patiemment une œuvre très personnelle. Enfin bref, comment se sent-on avec 18 ans de carrière ?
Ouais, en fait, avec 18 ans de carrière, c'est comme un choc pratiquement quand vous me dites ce chiffre. Mais toute l'intégralité de la vie me fait cet effet-là. Quand je vois par exemple que j'ai un garçon qui a 19 ans.
Oui.
C'est sidérant.
Aurélien.
Enfin, il me semble que c'était hier où je faisais encore les petites purées de carottes. Et voilà, et tout est comme ça. Par rapport à l'expérience ou à la maturité, je crois que ça sera pour une autre vie. Je crois que je vieillis sans mûrir. C'est-à-dire, je reste profondément immature, en vérité, je dois le constater. En revanche,
oui,
j'apprends. Et donc, je ne dirais pas que je suis devenue une grande professionnelle, mais disons que je me suis améliorée, voilà, dans mon métier.
Alors, continuons de parler musique. Le public français ignore, Carla Bruni, que vous vendez 4 fois plus de disques hors de nos frontières qu'en France, ce qui vous place dans le top 4 des exportatrices. Après Aya Nakamura, Christine and the Queens et Zaz. Bon, ces dernières années, vous avez donc donné des concerts à Barcelone, à Rome, à New York, à Los Angeles, à Beyrouth, à Istanbul, à Séoul, j'en oublie. Et j'imagine d'ailleurs bientôt en Chine, puisque votre manager a des demandes très fortes là-bas pour le nouvel album. Vous imaginiez, à la sortie de Quelqu'un m'a dit, vous imaginez une carrière internationale au point que, par exemple, le Brésil choisisse cette chanson comme générique de la plus grosse telenovela en quotidienne, ce qui est arrivé, et puis que la Corée du Sud choisisse votre reprise de Stand By Your Man comme générique d'une série très populaire. En fait, votre voix, elle résonne dans le monde entier.
Oui, en fait, je ne m'y attendais pas du tout, et je crois que c'est vraiment non pas une affaire de mérite, mais une affaire de hasard, et je dirais de chance. Et le premier album, en fait, a tellement voyagé que ça a ouvert les portes pour quelque chose. Et puis, mon mariage, qui a été un petit peu un obstacle ici en France, de facto, ce que je peux comprendre, à l'époque où mon mari était encore président, en fait, dans les autres pays, leur paraît être un truc extrêmement sympathique, ça ne les gêne pas du tout, au contraire.
Mais vous dites le premier album a beaucoup voyagé, vous n'étiez pas l'épouse de Nicolas Sarkozy à cette époque-là. Il s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires, cet album. Le monde s'est emparé de votre voix et de votre répertoire.
Je ne sais pas, c'est vraiment par hasard. En plus, ce sont des chansons très intimistes que je fais. Ensuite, ce sont des chansons profondément française et dans la tradition de la chanson française. Moi, je ne fais même pas de la musique pop, je fais de la chanson française, quoi.
C'est-à-dire, donc,
mes modèles, mes modèles sont des gens qui ne passent pas à la radio. Je veux dire, moi, je me suis construite sur Barbara ou Georges Brassens, des auteurs-compositeurs profondément classiques, pour ne pas dire surannés.
Profondément classiques, mais vos chansons voyagent jusqu'au Chili, où elle passe sur les radios. Donc, vous expliquez comment, en fait, l'impact de ce charme?
Je crois que c'est juste de la chance, en fait. Du hasard et de la chance. Ou alors, je ne sais pas comment expliquer autrement. Je crois que c'est de la chance. Ou peut-être qu'il y a des gens au monde qui ont besoin qu'on leur chante les choses comme si on était assis à côté d'eux. Peut-être qu'il y a des gens qui sont comme moi, au fond, et qui cherchent l'intimité dans la musique. Peut-être que ça existe, et bon, et c'est ça que je propose. Et il y a assez peu de gens, finalement, qui le proposent.
Alors, Carla Bruni, vous, l'amoureuse des mots, vous avouez qu'une chanson est faite par sa musique. En fait, un texte magistral sur une mélodie moyenne ne fera jamais une grande chanson.
Non. C'est la mélodie qui fait la chanson et le texte doit venir la rendre importante. Mais si la mélodie n'est pas là, on n'a pas la chanson. On a un poème. Pourquoi c'est pas une chanson? Parce que dans la chanson, la priorité est à la musique. Et c'est la musique qu'on retient. Par exemple, si vous voulez...
Et pourtant, ne me quitte pas de Brel.
Ah non, absolument. Mais si on chantait « Ne me quitte pas », par exemple, à quelqu'un qui est chinois, ou bien indien, ou bien martien, par exemple, je pense que quand même, ce qui retiendrait, c'est cette chose qui fait « Tiriravadiram, tavaravidiram, tavaradadadam,
tavaradadadam ». Vous savez, vous voulez pas continuer de chanter. Je vais cesser de poser des questions.
Et
je...
ce ralentissement, voilà, quoi, après qui retombe sur Ne me quitte pas. Et, il faut voir cette chanson qui s'appelle de Brassens, cette chanson de Georges Brassens qui s'appelle Les copains d'abord. Et il faut voir Brassens la chanter sur d'autres mélodies. Et ça tombe à l'eau complètement. Heureusement qu'il a fini par garder cette mélodie-là. C'est tout à fait étonnant. Il changeait souvent de mélodie pour ses paroles, Brassens. Il cherchait la mélodie idoine. Et les mélodies de Brassens semblent extrêmement simples, mais elles sont extrêmement complexes, comme tout ce qui est simple, d'ailleurs.
Alors, Carla Bruni, on cherche toujours l'autobiographie dans vos textes, mais souvent, à la manière d'Aznavour, d'ailleurs, vous nous contez des histoires qui nous racontent plus qu'elles ne vous racontent. Les journalistes veulent trop décoder les textes de vos chansons.
Bon, moi, je suis reconnaissante aux journalistes de s'intéresser à mon travail, donc je ne critiquerai pas leur curiosité et leur besoin d'explication. C'est simplement que ça m'embête, parce que je ne peux pas répondre. Je ne peux pas moi-même décortiquer les chansons. Je n'en suis pas capable. Je ne sais pas vraiment pourquoi j'ai écrit quelque chose. Donc je fais des réponses polies, simplement parce que je suis alors, flattée qu'on s'intéresse à mon travail à ce point.
Mais alors, si je vous pose une question sur, par exemple, le texte « Rien que l'extase », qui figure donc dans cet album, qui au départ a failli porter ce titre, mais vous y avez renoncé, vous allez nous dire pourquoi tout à l'heure. Bon, ce texte, il est d'une beauté tragique, car il s'agit de la mort quand vous chantez « Comment te décrire son ombre dans mon cou, la brûlure de son désastre à mes genoux ». Alors, votre voix de miel peut chanter des choses très noires, mais il nous faut donc de l'extase pour oublier qu'on va mourir. C'est ça que veut nous dire cette chanson?
Oui, l'extase.
Il faut se dépêcher d'être heureux.
Voilà, et l'extase, en plus, c'est un mot cocasse. Parce que c'est un mot excessif et c'est un mot pratiquement mystique, n'est-ce pas, l'extase. Donc en fait, c'est une chanson sur le plaisir, sur le désir, pour faire barrière à la mort.
Pourquoi avez-vous renoncé à ce titre, Rien que l'extase?
Parce que je n'aime pas une phrase qui commence par rien, ça convient pour moi.
Bien vu. Alors, Carla Bruni, votre père, compositeur d'opéra et de requiem, hein, je crois dans l'esprit de la seconde école de Vienne, vraiment musique contemporaine explorant la tonale et puis le dodécaphonique.
Exactement.
Votre père, donc, n'a jamais entendu les chansons de sa fille gravées sur un disque, puisqu'il paraît que vous n'osiez pas vous lancer dans la chanson et affronter son jugement tant qu'il était en vie. Mais il l'aurait sans doute infiniment aimé.
Est-ce qu'il aurait aimé sans doute par amour ou gentillesse, mais il n'avait pas une grande compréhension de la musique populaire. Il n'avait pas une grande compréhension, par exemple, les Beatles, qui sont en général très faciles à écouter pour tout le monde, même aux gens férus de musique classique, lui paraissaient très primitifs. Je ne vous dis même pas ce qu'il pensait des Stones.
Bon, alors, pour lui, la musique, c'était quoi? Une expérimentation très, très cérébrale?
Non, pour lui, la musique, c'était de la grande composition, les grands compositeurs classiques. Bien sûr, il faisait de la musique dodécaphonique, mais il était profondément inspiré par Mahler, par Stravinsky, mais aussi par Bach. Et c'était un grand amateur de Mozart, de Wagner, de Verdi. Enfin bon, c'était un musicien classique. Donc, pour les musiciens classiques, vous savez, notre musique...
Elle est païenne.
C'est un peu, elle est païenne et surtout elle est dilettante. Voilà.
Elle est dilettante.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Avec Isabelle Morizet sur Europe 1.
Elle a le secret des mélodies envoûtantes. Bah oui, ses textes sont ciselés et puis sa voix est feutrée, carrément hypnotique. On part cet après-midi en balade avec Carla Bruni qui sort un album au titre éponyme. Bon, Carla Bruni, si on veut être factuel. On rappelle que votre histoire démarre au nord de l'Italie, dans le domaine sublime du château familial de Castagneto Pop, près de Turin. Alors, il y a un petit côté Finzi Contini, mais on est bien chez les Bruni Tedeschi. Votre grand-père paternel a fondé la CEAT, qui est devenue une multinationale dans le secteur des pneumatiques et des câbles électriques pour voitures. Votre famille est donc l'une des plus puissantes d'Italie et ne vit que pour l'art, la musique classique, puisque on a évoqué votre père tout à l'heure, qui était compositeur et dont les œuvres étaient jouées à la Scala de Milan, entre autres. Alors j'aimerais bien comprendre, que faut-il faire enfant pour être visible dans un monde pareil, entouré d'adultes pareils ?
C'est une question très très intéressante, parce que en vérité elle évoque chez moi quelque chose de très précis, et de très, pas quelque chose de douloureux, mais quelque chose de très sensible. C'est que moi, effectivement, j'ai été invisible. Pendant longtemps, j'étais invisible. Et c'est d'ailleurs comme ça que la notoriété qui est la mienne aujourd'hui ne me pèse finalement jamais. Parce que c'est comme si elle m'avait rendue visible. C'est pas votre cas. On ne vous sent pas une grande amatrice de
visibilité,
de votre notoriété.
Et de notoriété, pas du tout.
On vous sent soulagée, soulagée d'être passée derrière le micro, par
vous
exemple.
Vous savez que j'ai pris la fuite. Mais il s'agit de vous cet après-midi,
et voilà,
Carla.
Et voilà. Alors, mais il y a beaucoup de gens qui sont comme vous.
Que tentiez-vous pour être visible, enfant ?
Alors, quand j'étais enfant, vraiment, j'avais le sentiment de ne pas réussir à être visible. Je tentais d'être drôle, voilà ce que je vous dirais. Je tentais d'être drôle. Ensuite, c'est à l'adolescence où je suis devenue physiquement visible, finalement, soudainement. Et c'est à travers le mannequinat que je suis devenue réellement visible et aux yeux de tous.
Alors, je reste un moment sur l'enfance. Karajan, la Callas, Nureyev, Visconti venaient dîner chez vos parents dans cette demeure dont les salons ressemblaient à des salles de bal. Vous deviniez enfant, Carla, vous deviniez que le monde ne ressemblait pas forcément à ça. Vous le deviniez.
Assez vite, je me suis rendu compte que mes parents étaient dans une espèce de normes très différentes des autres. Je m'en suis rendu compte par leur métier d'abord. Ma mère était pianiste, donc les deux étaient des artistes. Et par leur privilège aussi, je sentais que mes parents étaient privilégiés davantage que les parents de mes amis. Disons que j'ai dû me rendre compte, voilà, au CP, quoi, plus ou moins.
Et ils étaient très très occupés, vos parents. Vous dites que, en fait, c'est votre sœur aînée Valéria qui vous a élevée.
Et ma grand-mère.
Et votre grand-mère.
Française, oui. Qui s'appelait Renée Planche, qui était très importante pour moi. La mère de ma mère était française, en fait. Donc moi, je crois que cette langue, elle est rentrée dans mon cœur très tôt, dans mon oreille très tôt, à travers cette grand-mère qui était comme une mère pour moi. On me dit souvent, l'italien, c'est votre langue maternelle, vous devriez écrire en italien. Et oui, mais moi, c'est français, c'est ma langue grand-maternelle. Et c'est elle qui me choyait.
Voilà, c'est ça. Alors Carla Bruni, vous êtes née d'un secret qui n'en était pas un pour la famille, mais qui l'était pour vous. L'homme qui vous a donné son nom et vous a élevé n'était pas votre père biologique, vous l'avez appris peu de temps avant sa mort. Mais ma question en fait, c'est pourquoi dites-vous que pendant toutes ces années d'enfance et d'adolescence, avant de savoir, vous étiez dans le flou, alors qu'aucun problème ne se posait, vous étiez troublée alors que vous étiez une enfant aimée, choyée, protégée, mais vous étiez dans une espèce
d'angoisse.
Carrément.
Une petite angoisse, oui, comme quelque chose qui n'est pas à sa place. Comme un puzzle où il manquait une pièce, donc le puzzle est bien, mais il manque quand même une pièce. On se demande où elle est.
Mais il n'y avait pas d'indice.
Non, il n'y avait pas d'indice, et puis c'est une chose très banale qui m'est arrivée. C'est dans 20% des familles, non mais vous le croyez ?
J'ignorais.
20% des familles, c'est statistique ce que je vous dis.
Incroyable.
Bande de coquins.
Carla, être née d'un secret, c'est constitutif de votre personnalité. Est-ce que lorsque vous avez appris, lorsque vous avez eu cette révélation, vous vous êtes dit, voilà pourquoi je fonctionne ainsi ?
Voilà, exactement. Je me suis dit ça. Et je me suis dit aussi, je me sens mieux. Et c'est comme ça que j'ai su que c'était vrai. C'est-à-dire, j'ai ressenti un soulagement et non un traumatisme. Et c'est comme ça que j'ai compris deux choses. D'abord, que la vérité est toujours bonne. Pour se construire. Toujours bonne, quelle qu'elle soit. Notamment quand on est un enfant. Parce qu'on se construit simplement avec. On n'a pas de jugement. Mais on ne peut pas se construire sur une information qu'on n'a pas. On peut se construire sur une information que l'on a, quelle qu'elle soit. Même si elle est terrible, si vous voulez.
Donc ce secret, en fait, donc, révélé, voilà, vous a apaisé.
Ce qui m'a plu, c'est de quand j'ai appris cette chose, voilà, cette chose sur mon identité profonde, hein, ce n'est pas rien. Quand j'ai appris cette chose, ce qui m'a plu, c'était de transformer un mensonge, justement, en un secret. Parce que le secret, c'est le frère aimable du mensonge.
Voilà. Pourquoi, effectivement, vous n'êtes pas romantique, mais terriblement romanesque. Alors, je poursuis, on déroule le fil. Bon, en 72, à cause des gardes rouges qui, en Italie, enlevaient les enfants des familles fortunées, vos parents sont donc installés à Paris, dans un appartement non loin de la Tour Eiffel, où vous venez d'ailleurs souvent déjeuner, paraît-il, Jacques Chirac, et vous avez commencé à vivre escorté de gardes du corps, alors que vous étiez enfant.
Oui, on était enfant, mais le climat en Italie était terrible, hein. Ces années de plomb ont été un traumatisme pour l'Italie. Encore aujourd'hui, les gens sont traumatisés par ces années-là. Car ce terrorisme politique, cette espèce de terrorisme anarchiste, en quelque sorte, a fait beaucoup de morts. Et ça a été des années d'une violence incroyable. Et l'Italie est restée littéralement traumatisée par ça. Il faut voir que sur ce mouvement terroriste, se sont greffés des malfrats ordinaires qui ont commencé à kidnapper beaucoup de gens. Et c'est ainsi que l'Italie a dû faire une loi qui fait que lorsque quelqu'un de votre famille est kidnappé en Italie, tous vos comptes en banque sont bloqués dans la seconde.
Incroyable.
Et c'est ainsi qu'ils ont arrêté cette vague de kidnapping.
Mais oui.
Parce que les malfrats ont compris qu'ils ne seraient pas payés. Parce que les gens, évidemment, quand c'est votre enfant ou votre frère qui est enlevé, tout de suite, on va payer les ravisseurs. Or, tous les comptes étaient bloqués, on ne pouvait plus payer les ravisseurs. C'est une loi italienne pour vous dire à quel point ça a traumatisé le pays.
Extraordinaire, extraordinaire d'apprendre ça. Alors, Carla Bruni, que vous reste-t-il des 6 mois d'études d'architecture que vous avez faites à Paris, Panthéon, Sorbonne, hein, franchement.
La moitié de ma carte d'étudiante, j'ai pas fait l'autre moitié pour vous dire, il y avait 27 arrêts de métro entre moi et la fac de Tolbiac. Et là, c'était un problème énorme parce que de l'autre côté, il y avait cette espèce de rêve dont on m'avait parlé, où on me disait, la fiancée de mon frère, mais qui était mannequin, me disait, mais tu sais, tu devrais, je sais que tu veux être architecte, mais tu devrais vraiment essayer. Donc, pour tout vous dire, j'ai vite choisi parce que je n'étais pas quelqu'un qui étudiait facile.
À cause des 27 stations.
Entre les 27 stations et mes talents d'étudiante, si vous voulez, qui étaient très, très relatifs. Je veux dire, je ne m'étais pas rendu compte qu'il fallait faire 3 ans de mathématiques avant. Bah forcément, il faut que ça tienne debout. Eh non, bah oui, parce qu'on ne peut pas.
Mur porteur ou pas.
Ce n'est pas qu'une belle idée, je veux
voilà.
dire. Ce
Mais vous étiez en fait dans la projection purement artistique.
Oui, c'est ça.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 15h, 16h sur Europe 1.
Chère Carla, elle résout quoi, la célébrité? Elle complique, elle abîme certaines choses, mais elle en apaise d'autres, vraiment.
Oui, pour moi, elle en apaise. Pour beaucoup de gens, elle complique, simplement.
Ouais.
Et certains, d'abord, sont célèbres par hasard. C'est pas exactement ça qu'ils ont cherché. Ils cherchaient à faire un métier, et ce métier les a emmenés vers la célébrité. Mais ils ne cherchaient pas la célébrité comme but en soi. Et chez moi, la célébrité n'était pas un but non plus. C'est simplement qu'elle remplit une espèce d'inconsistance que j'ai avec moi-même, de présence inconsistante à moi-même. Moi, si je réfléchis bien, je ne suis pas absolument certaine d'être là, de m'appeler Carla et que vous soyez là. Je ne suis pas certaine que tout cela soit vrai. Au fond, peut-être.
Et avec ce que l'on vous renvoie,
voilà.
Là vous vous dites... Là,
je me dis, tiens, je suis en vie, je m'appelle Carla
bien.
Bruni, c'est donc moi.
Mais célèbre en restant mystérieuse, c'est un travail d'esquive permanent.
Non, parce que le mystère, ce n'est pas une volonté que l'on a, ce n'est pas quelque chose qu'on choisit ou qu'on projette. Ou on est mystérieux ou on n'est pas mystérieux. On peut déblatérer toute la journée et rester mystérieux. On peut être silencieux comme une tombe et n'avoir aucun mystère, je crois.
Bon, alors je reprends le fil de votre histoire qui est bien au-delà du hors norme. À 20 ans, vous habitiez New York et vous aviez une vie d'adulte. Vous posiez pour Vogue, pour Harper's Bazaar, pour L'Officiel, Mick Jagger, Kevin Costner et Clapton. Vous faisiez les yeux doux. Vous avez traversé les années 90 sur les plus beaux podiums du monde, entre Claudia Schiffer et Naomi Campbell. Quelle école ça a été, ça?
Ah, ça a été l'école de la chance et l'école de la liberté, parce qu'on était dans les années 90. Vous vous souvenez de ces années-là? C'était des années qui étaient les directes héritières des années 60 et 70. Donc on était tout était tranquille. Il y avait une liberté absolue de voyage, il y avait une liberté absolue de parole. On pouvait être incorrect dans les années 90. Mmh. On se régalait, si ces pauvres millénials se savaient.
Et puis, les top modèles, en fait, avaient remplacé les stars de cinéma.
Oui.
Elles étaient les femmes puissantes de cette décennie.
Exactement. On a eu tout d'un coup, on a bénéficié de cette curiosité qu'on a inspirée aux médias. Et tout d'un coup, les médias, pour une raison qui m'échappe encore aujourd'hui, je crois que c'est parce que les grands couturiers ont parlé de nous. Finalement, ils ont commencé à nous mettre en avant. Je parle Karl Lagerfeld, Gianni Versace, Valentino et je veux dire Yves Saint Laurent. Les couturiers ont commencé à donner des visages et des noms. Mmh. Et juste avant notre génération de mannequins, il y avait les mannequins de défilé, mmh. immenses mannequins de défilé, Katusha, Sonia Cole, etc. Et les mannequins de photo. C'est avec notre génération que les mannequins de défilé ont commencé à être des mannequins de photo. Donc, en quelque sorte, tout s'est mélangé et c'est ainsi qu'est née cette curiosité et cet intérêt que les gens nous ont porté et qui nous a fait des carrières formidables parce voilà. que beaucoup plus pérennes et mmh. beaucoup plus longues.
Mmh. Et pourtant, vous, Carla Bruni, vous n'avez pas attendu d'avoir 30 ans pour mettre fin à cette carrière de top modèle. Alors, 30 ans, c'est un âge symbolique, mais pas parce qu'on est moins séduisante, pas du tout. Parce que, vous dites, le milieu de la mode se lasse vite. En fait, c'est le milieu de la mode qui, sans cesse, réclame des visages nouveaux. Et vous avez décidé que vous choisiriez le moment où vous descendriez des podiums.
C'est-à-dire que j'ai décidé de ne pas me la faire à la pathétique, en mode je coupe les tarifs et j'attends. Alors que je travaillais tous les jours, dès que j'ai senti qu'il y avait un ralentissement, je me suis plongée dans la musique. Mais enfin, c'est pas tant que j'ai décidé, c'est que ça s'est décidé, c'est que ça se décide. Il y a un moment où une carrière de mannequin ne peut plus être quotidienne.
D'accord, ça ne pouvait plus être quotidien. Mais le moment précis, Carla Bruni, le moment précis où on descend, on le sait, pour toujours du podium. Les flashs s'éteignent. On n'a que 29 ans et on se retrouve comme une reine qui aurait égaré sa couronne. Ce moment où il faut réinventer sa deuxième vie. Parce que vous composiez, vous écriviez, vous ne lâchiez pas votre guitare, vous chantiez déjà. Mais vous aviez eu peur de vous projeter dans une deuxième vie ?
Oui, j'ai eu peur et c'était un moment de transition un petit peu compliqué. Mais bon... C'est vrai que j'avais essayé de m'y préparer. Cela dit, on se prépare aux choses pour rien, hein, parce qu'après, elles sont toujours différentes.
Sauf que là, c'est bien arrivé.
Là, c'est absolument bien arrivé. Et j'ai été très chanceuse d'avoir la musique, je crois. Parce que la musique, c'est pas n'importe quoi, quand même. Et c'est un tel délice.
La guitare, en fait, ouais. elle vous a accompagnée toute l'adolescence.
Ouais, toute l'adolescence, toute la jeunesse.
En autodidacte, n'est-ce pas, à apprendre à en jouer à la fin de l'enfance.
Ah ouais, toujours. Hein,
vous l'emmeniez très autodidacte. En voyage.
Je l'emmenais partout avec moi, c'était ma compagne de voyage. Et le mannequinat est un métier assez solitaire, parce que finalement on rejoint les équipes là où elles sont, et on est souvent seul en voyage. Donc la guitare, c'était particulièrement précieux.
Juste avant de faire une pause, Carla Bruni, tous les Vogue, les Harper's Bazaar dont vous avez fait les unes à l'époque, en muse de Dior, de Saint Laurent, de Chanel ou de Christian Lacroix, ils dorment au fond d'une bibliothèque ou bien vous les avez jetés ?
Ma mère a tout archivé. De ma sœur et de moi, ma mère a tout archivé.
Allez, mama italienne.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Avec Isabelle Morizet sur Europe 1.
Comme un cadeau, cette balade intime avec Carla Bruni, dont la vie est un destin. Et quel destin ! Son nouvel album au titre éponyme vient de sortir. Alors, chère Carla Bruni, vous affirmez, sans la musique, je ne sais pas ce que j'aurais fait de ma vie. Je voudrais savoir si vous vous souvenez de la toute première télé en live derrière votre guitare. Quand, pour la première fois, il faut projeter le son de sa voix devant 5, 6, 7 millions de personnes et les amener dans son univers. Ce moment où on prend sa respiration pour une nouvelle naissance, si on réussit le saut de l'ange. Vous vous en souvenez ?
Je me souviens des émissions du début. Je me souviens justement d'une émission où j'avais été invitée par Michel Drucker. C'était le Vivement Dimanche de Bernard Kouchner, dans mon souvenir. Et il y avait comme invité, imaginez, Ray Charles et moi. Et donc Ray oui. Charles, pour moi, c'était une espèce de combo gagnant. Si vous voulez être dans l'émission de Michel Drucker, j'avais regardé toute mon enfance les émissions de Michel et de Marité Gilbert Carpentier. Enfin, pour moi, c'était des émissions extraordinaires. Et pour nous, pour les gens qui chantent, c'est des émissions merveilleuses. Puis Bernard Kouchner, qui était le French Doctor. Et puis Ray Charles, qui est descendu d'une voiture à 14h avec un petit verre de whisky à la main. Et Et qui a fini son whisky avant de se mettre au piano. Tout ça pour vous dire que je crois que j'ai fait un son de cet ordre-là ce jour-là. On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, qu'elles passent en un instant.
Mais elle prenait son élan. Alors, on a appris au début de votre carrière donc, que vous aviez d'abord signé des textes sur un album de Julien Clerc, façon très élégante d'apparaître dans ce métier. Ensuite seulement est né votre album, co-composé avec Louis Bertignac, qui s'est vendu donc à plus de 2 millions d'exemplaires et qui a fait de vous l'artiste de l'année aux Victoires de la Musique 2004, quelqu'un m'a dit. Elle est unique, en fait, cette reconversion-là, Carla Bruni, parce que Laetitia Casta, Diane Kruger, Mila Jovovich et Monica Bellucci se sont reconvertis dans le cinéma, mais il n'y a pas d'autre exemple de top modèle qui réussissent depuis 18 ans une carrière d'auteur-compositeur-interprète en donnant des concerts partout dans le monde. Les plus surpris ont été les gens du milieu de la mode, à Londres, à New York.
Non, parce que les gens du milieu de la mode, ils ne sont jamais surpris par rien. C'est un petit peu leur caractéristique. Ils sont surpris, disons, par un mauvais choix de veste. Oui, ça peut être une grande surprise.
Mais sinon, ils sont blasés avant d'être surpris.
Non, c'est un milieu pas blasé, mais c'est un milieu qui n'est pas très judgmental, comme on dit, qui ne juge pas beaucoup. Et c'est un milieu qui est sans cesse en train de se réinventer, etc. Donc non, qui a été surpris ? C'était l'autre milieu, c'est-à-dire au contraire le milieu de la musique, où à mon avis, ils ont dû rigoler doucement. Puis après, en fait, ils se sont rendus compte que peu importe que l'on aime ou que l'on n'aime pas mon travail, mais on sent bien que c'est mon travail. D'ailleurs, Louis Bertignac a réalisé l'album, mais moi je fais plus ou moins 100% de mes paroles et de ma musique. Là, sur cet album, ce nouvel album, j'ai cherché quelques compositeurs simplement pour aller dans un autre univers, parce que la musique d'autrui, je travaille avec Michel Anselm, avec Calogero, avec Julien Clerc, avec Jeremy Reynolds. Ce sont ces quatre garçons ont un monde musical que je n'ai pas. Donc j'aime parfois quand j'ai un texte qui me semble un petit peu...
Mais ça part de vos textes vers leur musique.
Parfois on m'envoie la musique et j'écris dedans.
Bon, parlons d'amour. Allez, arrive le soir où les grands faux se rencontrent, taillés l'un pour l'autre. Une évidence, question de destin et de charisme. Bon, alors les journalistes, Carla Bruni, ont mille fois fantasmé ce dîner organisé par Jacques Séguéla où pour la première fois vous avez rencontré Nicolas Sarkozy. Mais vous avez su ce soir-là que cet homme, précisément cet homme-là, allait réécrire votre histoire.
Bon, je vous avouerai que j'ai senti l'impact des choses ce soir-là, ouais. Mais peut-être que j'espérais quelque chose, mais enfin, après, il fallait voir, il fallait attendre. Il m'a quand même rappelé seulement à 16h le lendemain.
Oh, zut !
Non mais, je lui en veux encore.
Il a attendu jusqu'à 16h le lendemain.
Il paye encore.
Bon, alors vous dites attendre, mais 3 mois seulement plus tard, au cours d'une cérémonie tenue délicieusement secrète, vous êtes marié au Palais de l'Élysée. Jamais auparavant, un président en exercice ne s'était marié à l'Élysée. Et pas depuis d'ailleurs. Vous avez donc passé 4 ans et demi à l'Élysée, expérience unique dans l'histoire d'une vie, mais vous dites, à l'Élysée, je marchais sur du cristal. Jamais je ne me suis sentie la maîtresse de maison.
Non. Non, parce que c'est un endroit où on est... qui appartient à tout le monde, en fait. C'est un endroit qui appartient aux Français. Donc moi, curieusement, peut-être ça vient de ma naissance, de cette chose un peu floue qu'il y avait à ma... Parce que j'aime bien que les places soient très précises. Et donc j'aime bien rester à ma place. Et donc pour moi, rester à ma place à l'Élysée, c'était accompagner mon homme. Et surtout ne pas me prendre pour quelqu'un qui serait là pour quelque chose. Donc je ne faisais que ce qu'on me demandait. Et je n'exerçais aucune action en dehors de celle d'accompagner mon mari et de représenter la France quand on me le demandait.
Alors,
je n'ai pas été moderne, je n'ai pas été audacieuse et je n'avais aucune envie de l'être. J'avais envie de rentrer dans la tradition, au contraire française. Moi, j'étais italienne quand je me suis mariée, j'étais naturalisée.
Italienne, et vous avez été naturalisée après, parce
après,
que vous aviez...
ça a pris beaucoup de temps.
Mais oui, vous ne pouviez pas voter, par exemple, en France,
non,
à l'époque où vous êtes entrée à l'Élysée.
Voilà, j'ai pu voter pour la première fois en 2009, parce que j'ai obtenu ma naturalisation française. Et il faut expliquer quand on est naturalisé français. Donc maintenant, je suis française et italienne, bien sûr, j'ai gardé ma nationalité italienne, j'ai double nationalité. Il faut expliquer pourquoi vous voulez la nationalité française.
Non.
Et je ne savais pas quoi dire à la dame, parce que pour moi, c'est tellement proche
ne
d'Italie.
Ne me dites pas que l'administration a demandé à l'épouse du président de la République française...
Mais pourquoi vous voulez devenir française? Et je disais,
magnifique.
Mais par politesse.
C'est magnifique. Alors, à l'Élysée, bien sûr, vous étiez l'observatrice, la spectatrice privilégiée. Jamais auparavant, vous n'aviez été immergée dans le monde politique, Carla. Mais est-ce que la politique, qui n'existe pas sans le pouvoir, suscite des pulsions bien plus primitives et bien plus sauvages que celles des milieux d'affaires où il est pourtant question de réussite et de puissance?
Ou même que celles du show business, je trouve, il est question aussi
toujours,
de réussite et
voilà.
De puissance. Ouais, je trouve que la puissance, c'est autre chose que le pouvoir. La puissance, ça serait la cousine aimable, moi je dirais, du pouvoir. Et c'est quelque chose où on a le choix, la puissance. Par exemple, la puissance... d'un artiste, d'accord, mais vous avez le choix que d'aller voir son spectacle ou pas. Tandis que le pouvoir ne vous laisse pas le choix. C'est autre chose. C'est un effet beaucoup plus radical. Je dirais que la puissance, ça serait une drogue douce, et le pouvoir, une drogue dure. On passe à la morphine.
Alors, pendant 4 ans, les esprits les plus exaltés se sont demandé si vous ne formiez pas, à vous deux, Nicolas et vous, une sorte de G2 par rapport au G7, mais en privé, quand il s'agissait de discuter des affaires du monde. Bon, on sait grande votre intelligence. Certains, inévitablement, vous imaginaient en femme d'influence. Alors que vous nous dites, moi je voulais juste me glisser dans la tradition.
Oui, et je ne suis pas du tout quelqu'un d'influence, parce que j'ai été élevée par ces parents tellement libertaires, si vous voulez. C'était tellement libre chez nous, qu'en fait, moi... je n'essaye pas de me... Encore une fois, je sais où est ma place. Donc moi, je crois qu'il y a des métiers dans la vie. Je crois que vous faites votre métier, je crois que je fais le mien. Et je crois que si, par exemple, toutes les deux, on a un problème de plomberie, vous avez un problème de plomberie et que c'est moi qui viens réparer votre lavabo, vous allez voir que je ne suis pas plombier.
Voilà.
Donc moi, je crois dans le métier. Donc j'observais mon mari qui a du métier, qui est un homme qui a une expérience de la politique... total, parce qu'il a commencé à 20 ans et que c'est, ça a été sa vie pendant longtemps, ça ne l'est plus, mais ça a longtemps été sa vie. Donc le métier de mon mari me procurait une certaine fascination et j'aimais bien l'observer, mais il ne me venait pas à l'idée de donner mon avis. D'autant que j'ai un avis absolument contraire en tout. Hein.
Bon, en tout cas, aucune première dame n'a causé autant de frayeur aux services de sécurité. Il paraît que vous étiez la reine pour échapper à la protection et parvenir à vous balader seule dans les rues, comme vous l'avez fait par exemple un soir à New York. Pendant un déplacement officiel avec votre époux, président de la République, Obama avait placé les bodyguards du Secret Service autour de vous et, plus forte que James Bond, vous leur avez faussé compagnie pour aller vous balader sur la 5e avenue.
La nuit en plus.
Non.
Mais si c'était la nuit, je suis sortie, je crois que l'explication est là. Mon homme s'est endormi tranquille, il avait un peu beaucoup de choses à faire la journée. Et moi, vers 22h...
Mais s'il s'était réveillé et ne vous avait pas trouvé, il aurait été très inquiet.
Non, il n'aurait pas été très inquiet. Parce que justement, il y avait de la police surtout. Bon, ils n'étaient pas là, je ne sais pas où était passé Secret Service. Il y en avait 5 d'habitude sur le palier de la chambre d'hôtel. Et là, il n'y avait personne. Donc j'ai pris l'ascenseur, je suis descendue dans le hall, il n'y avait personne. Alors d'habitude, il y avait 20 mecs avec des oreillettes. Devant l'hôtel, alors d'habitude, il y avait, il y avait personne. J'en ai déduit que c'était mon jour de chance.
Et quand vous êtes rentrée, ils étaient là, affolés.
Ils étaient là. Et là, quand ils m'ont vu sortir de l'ascenseur, ça a été un grand moment de désarroi pour eux.
Formidable. Bon, dans votre première vie, Carla, vous étiez regardée. Dans celle-ci, on vous scrutait. Chaque attitude, chaque regard, chaque tenue était commentée dans le monde entier. Votre révérence devant la reine d'Angleterre a fait le tour du monde. Mais pour la reine des podiums que vous étiez vous-même, bon, apparaître et paraître, c'était une fonction hautement maîtrisée. Vous ne pouviez pas ne pas être parfaite. Donc finalement, les réactions de la presse mondiale, elles vous ont plutôt amusée.
Je m'étais préparée un peu. Je m'étais préparée et ça a été comme... C'était merveilleux pour moi d'obtenir de tels commentaires. Il faut dire que j'étais allée en Afrique du Sud pour le premier voyage d'État quelques semaines auparavant et je n'avais pas pris de coiffeur ni de maquillage. Je n'avais même pas un petit bijou. Donc le soir du dîner d'État, la femme du président qui était elle couverte de magnifiques bijoux, je lui ai dit, vous savez que j'ai oublié mes bijoux, je ne suis pas une professionnelle, c'est mon premier voyage d'État. Elle a fait ce geste absolument fantastique, elle a enlevé tous ses bijoux.
C'est magnifique.
Pour être comme moi. Et donc, je suis revenue de ce voyage. J'avais eu une couverture de presse assez conséquente et notamment une couverture d'un magazine français où j'avais les cheveux complètement en pétard dessus. Et c'est mon ami Jacques Séguéla qui m'a appelé, qui m'a dit... Il faut que tu prennes un coiffeur. Tu es première dame de France. Tu dois prendre un coiffeur. Ne te coiffe pas toute seule. Et donc, c'est ainsi que j'étais bien coiffée. Voilà.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 15h, 16h sur Europe 1.
Belle cette balade avec Carla Bruni. On la poursuit. J'ai encore plein de questions à lui poser. Chère Carla, On évoquait à l'instant ce chapitre de votre vie où, épouse d'un président de la République, vous étiez scannée en fait par les journalistes du monde entier. Or, vous confiez, on ne peut absolument rien contrôler de son image publique et du sentiment que les autres en ont. Ce sont les journalistes, les rumeurs, tous ceux qui sont dans le conflit ou inversement dans l'intérêt qui façonnent en fait une image publique.
C'est un mélange étrange de ce que les gens disent de vous, de ce que les gens projettent de vous et de ce que l'on est vraiment, je pense. Ouais. Ah, y a des gens qui sont très différents de leur image publique et des gens où on sent qu'ils sont exactement tels quels. C'est très difficile.
Mais il y a ce que l'on tente de livrer et puis ce que les autres perçoivent.
Exactement. Donc, ouais, exactement. Donc moi, en ce qui me concerne, cette affaire un peu comme ça, je n'ai jamais réussi à contrôler. Moi, j'ai laissé tomber très vite le contrôle de ça, parce que ça me faisait souffrir.
Alors, il y a le contrôle et puis il y a cet art de la conversation qu'on cultive naturellement dans les grandes familles, cet art de la conversation qui permet de garder à distance, avec une courtoisie délicieuse et puis de l'esprit, mais à distance les autres d'une manière imparable. Il vous a servi parfois en interview ?
Très, beaucoup.
Beaucoup ?
Beaucoup.
Me dites pas aujourd'hui.
Non, non, mais je dois vous dire que nous, les Italiens, c'est quand même ça. L'une de nos caractéristiques, c'est qu'on a cette chose de parole et de conversation. Les Français aussi, mais je trouve, nous, un chouïa plus. On est quand même un peuple de bavards.
Oui, c'est un fait. C'est un fait. Bon, parlons musique. Votre sœur et vous êtes rarement réunis sur des projets. Valeria joue la comédie, Valeria réalise des films, mais rarement vous partagez le même terrain de jeu. Sur le nouvel album, eh bien vous avez invité votre sœur pour un duo slamé en italien. C'est parti de quelle envie, ça ?
C'est parti un petit peu du fait que j'ai terminé la chanson pendant le premier confinement et que j'étais confinée avec ma sœur et ses enfants. Nos deux familles ensemble, plus ma mère et ma tante. Et autant vous dire que mon mec, il n'en menait pas large. Et donc, il a écrit un livre pour le coup.
Ben voilà,
il s'est isolé.
Voilà.
Mais voilà. Et donc, à force d'entendre cette chanson et d'entendre finalement les compliments que ma sœur me faisait sur cette chanson et les encouragements, parce que j'étais très dubitative sur le fait de savoir écrire en italien. C'est ma première chanson écrite
mais
en
oui.
italien. Et voilà. Et ma sœur était si encourageante et si enthousiaste qu'à la fin du confinement, quand j'ai pu rentrer à Paris et qu'on s'est précipité au studio Ferber avec Albin de la Simone et tous les musiciens, j'ai appelé ma sœur et je lui ai dit « Allez, viens, tu te l'es farci pendant tout le confinement, tu l'as écouté, tu as bien dû l'écouter une quarantaine de fois parce que je faisais les maquettes. Viens chanter un couplet. » Elle m'a dit « Arrivo subito.
» Bon, désormais, vous chanterez plus souvent en italien.
J'écrirai plus souvent en italien. En fait, je sais écrire en italien. Faut pas se juger, c'est toujours une prétention.
Est-ce qu'il arrive que certaines maquettes enregistrées comme ça, d'une manière totalement épidermique, instinctive, soient plus magiques que le produit fini, abouti en studio ?
Ça arrive pas avec Albin de la Simone ou Louis Bertignac, ouais. mais ça arrive, ça peut arriver. On peut noyer le charme de quelque chose, simplement parce qu'il y a certaines chansons...
D'ailleurs, parce que le mieux est l'ennemi du bien, parfois.
Peut-être, mais parce qu'il y a des chansons qui ne sont pas faites pour être produites. Par exemple, si on prend une chanson dans cet album que j'ai fait, là, dont vous avez la gentillesse de me parler... Il y a une chanson en anglais qui s'appelle Your Lady. Sur cette chanson, Albin de la Simone m'a demandé de jouer moi-même de la guitare parce que, Dixit, j'ouvre les guillemets, personne ne pourra jouer aussi maladroitement que toi. Et on a besoin de ce doigté-là.
C'est Baudelaire, mis en musique, qui clôt votre album. Comme un besoin de transcendance, c'est ça, ce texte de Baudelaire, que vous aviez envie d'ailleurs de chanter
longtemps.
Depuis longtemps.
Ferré l'a adapté magnifiquement, mais Ferré, oui. Il l'a adapté comme faisait Ferré, c'est-à-dire que si c'est plus lui qui chante, on ne peut pas la reprendre, sa chanson. Il faut l'immense génie et l'immense tempérament de Ferré. Donc j'ai décidé d'en faire une nouvelle. Et puis j'ai écrit beaucoup de musique pour ces paroles.
Et puis vous les avez écartées.
Et puis je n'ai jamais été satisfaite par la musique que j'avais trouvée, par les différentes musiques. Et c'est mon ami Jérémy Reynolds, qui est musicien, mais qui est aussi un coach vocal extraordinaire. C'est Jérémy Reynolds qui m'a dit « Écoute, voilà, j'ai fait une petite composition sur le poème de Baudelaire, je te l'envoie. » Et là, il m'a envoyé cette musique extraordinairement parfaite et magique. Et il y a quelque chose que j'adore dans sa composition, c'est qu'il y a une partie qui est murmurée, c'est-à-dire « Nous aurons des lits pleins d'odeurs légères, des divans profonds comme des tombeaux et des fleurs étranges sur nos étagères écloses pour nous sous des cieux plus beaux. » Et à ce moment-là, il y a une partie musicale et la voix fait Et j'adore le mélange entre le texte de Baudelaire et ce... C'est comme si c'était une femme, au fond, qui pensait à son amour perdu, en fredonnant chez elle dans une espèce de solitude. Ça me rappelle, toute proportion gardée, mais enfin là, il s'agit de la musique de Jérémy et des paroles de Charles Baudelaire, donc je peux me permettre de comparer, c'est moi, pas moi qui ai écrit, mais ça me rappelle cette chanson de Barbara qui s'appelle Pierre, où elle attend ce Pierre dans sa maison, et elle se promène dans la maison et elle fait ta-di-dam, tam, ta-di-dam, ta-di-da-di-da-di-dam, ta-di-da-di-da-di-dam. Il pleut. Ta-di-dam, ta-... Et puis elle dit, c'est joli, la pluie. Et elle fait vraiment comme ça, et puis elle pense toute seule et dit, oh, quand Pierre va rentrer, il faudra que je lui dise que le toit de la remise fuit. Et puis, à la fin de la chanson, il arrive. C'est-à-dire, la voiture arrive, ou elle entend arriver. Et là, elle a la chamade. Et donc, elle accélère, elle fait, ta-da-dam, tam, ta-da-dam, ta-da-dam, oh, Pierre, ta-da-dam, tam, ta-da-dam. Et là, on sent qu'il arrive et qu'elle est presque en train de s'enfuir de l'autre côté de la maison. Vous voyez, et là, je dis, vous voyez, nous sommes sur des ondes, mais je m'adresse aux auditeurs, comme ça peut être magique. La radio. Alors, Carla Brunet, avant de se retrouver, on s'offre un duo. Celui que vous avez fait avec votre sœur, la comédienne Valeria Brunet-Tedeschi, Voleo la mort, qui figure sur le nouvel album.
Io voglio l'avventura, batti cuore ancora tiepido, l'inizio del bruciore, il talismano come unico, l'inizio del dolore, dell'assenza, l'inquietudine, il brivido che sale come un fulmine. E poi voglio sentire come nasce, come viene, come fa questa felicità. E poi come rallenta, si addormenta il suo tormento. Ma chissà, e poi chissà, voglio l'amore. Voglio sentire. Voglio l'amore. Voglio bruciare ed assaggiare la follicina. Voglio l'amore. Voglio il suo canto e il suo pianto irreversibile. Voglio l'amore. Voglio l'amore e il suo lieto disonore.
Pas qu'une vie dans la vie.
Bon, Carla Brunet, les yeux dans les yeux, que vous avez fort bleus d'ailleurs, tiens, ça rime. On meurt plus vite quand on n'est pas suffisamment aimé.
Ah oui, je crois vraiment que l'amour est une protection contre, bien sûr, contre la solitude, mais contre aussi la maladie et la mort. Bon, et la mort est inexorable, bien sûr, mais je pense qu'on meurt mieux avec la mort.
On meurt mieux, dit-elle. Est-ce que vous avez commencé à rédiger l'histoire de votre vie ?
J'ai un petit peu commencé, mais je ne suis pas vraiment une femme de prose.
Mais vous avez commencé à rédiger quelques chapitres ?
Un petit peu, à commencer à rédiger ma propre histoire, de ma propre plume. Ce que je vais faire, en revanche, à mon avis, Isabelle, c'est que je vais la publier post-mortem.
Comme Anaïs Nin ?
Voilà, ça me permettrait d'écrire pour de vrai.
Bon, beaucoup plus prosaïquement, on a appris il y a quelques jours que Michelle Obama, Michelle et Barack Obama viennent de signer un contrat de 160 millions de dollars pour un livre, leur mémoire à la Maison Blanche, dans lequel d'ailleurs très probablement ils ne révéleront pas grand-chose, n'est-ce pas ? On connaît l'exercice, mais ça vous inspire quoi, ça ?
Eh ben, je suis contente pour eux. Ça m'inspire une certaine indifférence, mais je lirai en tout cas leur mémoire parce que ce sont des gens remarquables.
Oui.
Et donc.
Mais ça interroge plutôt sur l'éditeur, on va dire, ou sur la curiosité.
Sur
pas,
la curiosité, ce sont quand même des gens extraordinaires qui ont été dans une position extraordinaire et donc les deux choses conjuguées peuvent sans doute valoir ce genre de contrat. Après, je suis toujours étonnée, je suis toujours un peu dubitative sur ce qu'on nous raconte de tout ça parce qu'on ne sait pas, au fond, ce n'est pas nous qui l'avons signé ce contrat.
Je me souviens qu'à la Maison Blanche, il y avait eu un dîner ou un déjeuner. Vous étiez tous les quatre, n'est-ce pas ?
Absolument.
Avec votre époux, Nicolas Sarkozy, Barack Obama, Michelle Obama. Et c'est vous qui étiez en fait la traductrice, passant comme ça avec tellement d'aisance de l'anglais au français, du français à l'anglais. Moment absolument incroyable, quoi. Surréaliste.
Mais c'était incroyable, c'était en plus extrêmement... chaleureux, accueillant et simple. C'est peut-être la chose la plus remarquable de Michelle et de Barack Obama, c'est leur grande simplicité, ce qui est typique des gens brillants.
Mais il s'agissait quand même de parler politique.
Ah oui, oui, parler politique. Alors depuis, mon mec a appris l'anglais. Mais c'est vrai que, bon, il y avait tout le temps des traducteurs et que le fait qu'il n'y ait pas de traducteur et que ça soit fait comme ça, bon enfant, était plus confortable. Pour eux aussi, pour se détendre un peu.
Bon, alors, je voudrais savoir, en fait, vous écrivez des chansons consolantes, mais qui sont faites pour vous consoler ou nous consoler?
Je ne sais pas si elles me révèlent, mes chansons, en tout cas, elles me ressemblent, je crois. Et elles sont pour moi, bien sûr, un peu une consolation, mais elles sont surtout un refuge. Donc, je propose comme refuge pour la fantaisie, pour l'âme, des chansons. Alors, j'écris des chansons dans lesquelles, moi, je pourrais me réfugier. On a du mal à écrire des choses qui sont loin de soi, hein. Donc j'écris des choses tout près de moi. Je ne sais pas si elles sont un refuge pour les autres, mais c'est ce que j'essaye de faire, quoi. J'essaye de projeter une douceur et un refuge et une intimité et aussi quelque chose de très tranquille, quoi.
Alors vous nous avez dit que la chanson parfaite n'existait pas, mais celle qui s'en approche le plus.
Oh là là, oh, j'ai une longue liste, hein. Et une chanson de Nina Simone qui s'appelle Wild is the Wind, par exemple, pour moi, c'est pratiquement la chanson parfaite. Vous parliez de Ne me quitte pas tout à l'heure, ça va très loin, Ne me quitte pas. Très très loin, hein. Et très 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 fort, hein. Brel. Et je vous parlais par exemple des copains d'abord de Georges Brassens tout à l'heure aussi. Et vous voyez par exemple, les copains d'abord, ça a l'air d'être une chanson bon enfant et tout ça. Bah, je vais vous dire juste un couplet et vous allez comprendre ce que je veux dire. Au rendez-vous des bons copains, il n'y avait pas souvent de lapin. Si l'un d'entre eux manquait d'abord, c'est qu'il était mort. Mais au jamais, au grand jamais, son trou dans l'aune se refermait. 100 ans après, qu'aucun ne sort, il manquait encore. Ça, si c'est pas des belles phrases sur l'amitié.
Ah, certes, certes. Alors Carla, repartez-vous en tournée bientôt?
Mais je prie pour repartir en tournée bientôt. Mektoub, je prie. Et nous prions tous, tous, pas seulement les artistes, tous les gens qui travaillent dans le monde artistique, qui sont tous un peu des artistes. On prie tous pour repartir en tournée et on prie tous pour retourner aussi dans le public. Moi, j'ai envie d'aller au théâtre, j'ai envie d'aller au cinéma, j'ai envie d'aller écouter les autres chanter.
Vous avez envie d'aller écouter les autres chanter? Nous, on se régale de vos chansons. Le 5e album éponyme vient de sortir. Merci infiniment pour
merci
cette
de
balade.
M'avoir reçu.
Voilà, on a pris les chemins de traverse.
C'était bien voilà. Agréable. Hein.
Et puis je vous dis à très 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 vite.
À bientôt, Isabelle. Europe 1.